Bon, cette séquence va être ouverte donc par Ségolène Le Menn, qui est, vient presque en voisine de l'autre côté de la scène, du musée d'Orsay et du CNRS, dont tout le monde connaît les travaux sur les illustrations, les abécédaires, les, enfin tout ce qui bouge en images au 19e siècle. Bon, va nous parler, si vous n'avez pas changé de titre, des affiches de librairie et de l'œuvre de Zola.
Je n'ai pas changé de titre, en effet, et je vais parler des affiches de librairie, c'est-à-dire des affiches qui ont servi à promouvoir et à lancer les ouvrages de Zola. Comme pour Balzac et Hugo, qui ont été deux autres grands écrivains du 19e siècle, sensibles à l'importance de l'image dans la genèse et la diffusion massive d'une œuvre littéraire, à l'époque où change le statut de l'écrivain, un certain nombre d'affiches ont servi au lancement des œuvres de Zola, et on les a conservées. Pourtant, l'affiche est un matériau éphémère et fragile, et quel que soit son tirage, elle peut être vouée à la disparition. Le corpus ici réuni se compose de 15 affiches ou affichettes retrouvées, et d'une, peut-être de deux affiches attestées simplement par des sources écrites, mais non retrouvées, qui s'échelonnent sur une période de 20 ans, de 1876 à 1897. Comment se situent respectivement l'œuvre de Zola et l'histoire de l'affiche, l'une par rapport à l'autre? À quel type se rattachent les affiches de ce corpus? Quelle a été leur évolution? Et quelle est enfin leur fonction? Ce sont les trois questions que je voudrais poser ici. Alors tout d'abord, comment se situent les écrits de Zola par rapport à l'histoire de l'affiche? C'est un thème qu'on peut dédoubler. D'une part, il y a les textes de Zola face à l'histoire de l'affiche, et puis d'autre part, la situation de l'affiche dans l'évolution, dans la chronologie même de l'œuvre de Zola. On peut d'abord remarquer que la production littéraire de Zola s'inscrit entre les années 1860 et la fin du siècle, c'est-à-dire exactement à l'époque d'un très grand âge d'or de l'affiche française et du roman feuilleton, qu'il faut rappeler au passage. Cette période est pour l'affiche dominée par Chéret et la lithographie en couleur, qui culmine entre 1866, précisément, date du retour de Chéret en France après un séjour formateur à Londres, et 1896, l'année du centenaire de la lithographie, vivement commémorée par de grandes expositions et par un grand nombre d'articles. Collés bord à bord, en pleine rue, les affiches égayent les palissades des chantiers haussmanniens, et puis elles vont conquérir de manière sauvage ou réglementée de vastes espaces dans la métropole des temps nouveaux. En 1884, la ville de Paris a mis en adjudication aux sociétés d'affichage les murs pignons des immeubles lui appartenant. Ces mêmes sociétés contrôlent l'affichage des kiosques à journaux, des colonnes lumineuses, des tramways. Et sur les pans des voitures annonces, au dos des hommes sandwich ou aux mains des camelots, les affiches font partie de la circulation urbaine. Les critiques, comme les peintres ou les écrivains, ont reçu de vives impressions de ce nouvel art populaire, et je cite simplement une phrase de Roger Marx de décembre 1889 qui dit ceci: arracher la rue à la monotonie grise et morne des édifices alignés au cordeau, y jeter le feu d'artifice en couleurs, des couleurs, pardon, le rayonnement de la joie, convertir les murailles et les soubassements en surfaces décorables, et de ce musée en plein vent tirer la révélation du caractère d'une race et en même temps l'éducation inconsciente du goût public, c'est cela la tâche de Chéret. Vous voyez que l'art de l'affiche se résout dans l'art de Chéret, dans cette préface au catalogue de la première exposition monographique de l'artiste. De cette même année 89, qui est vraiment charnière, date aussi la première rétrospective d'affiches à l'exposition universelle et plusieurs expositions spéciales à l'art de l'affiche, dont les catalogues sont conservés, et dans tous les cas, l'affiche pour la terre de Zola y figure. C'est une des affiches clés de l'histoire de l'affiche. Parmi les différents registres de l'affiche illustrée des années 80 et 90, du théâtre au cirque ou au café-concert, des chemins de fer aux grands magasins, sans oublier les produits de consommation, se détache le roman feuilleton. Ce secteur florissant est mitoyen entre l'affiche de librairie à proprement parler, qui est dévolue aux éditions illustrées, et l'affiche de journal. Alors, je ne vais pas revenir tellement sur le roman feuilleton, qui est quelque chose de connu. Au rez-de-chaussée de la page, c'est une formule qui est apparue sous la monarchie de Juillet et qui fait partie des rubriques habituelles au journal de la Troisième République. On sait que Zola, comme d'autres romanciers naturalistes, ont publié pratiquement tous leurs ouvrages sous cette forme populaire qui leur a procuré succès et profit, et qui chez Zola est perçue de manière ambivalente, puisque d'un côté elle est très lucrative, elle est exploitée dans le processus génétique d'une manière assez proche finalement de l'emploi du tapuscrit par des écrivains par la suite, et de l'autre elle impose à la lecture un rythme spécifique qui n'a pas été voulu par l'auteur. Elle modifie la disposition, les anéas, et elle intervient sur ce que Loffert appelle la scripturation du texte, sans oublier certaines coupes qui peuvent friser la censure. Donc l'activité littéraire de Zola coïncide avec cette grande époque de l'affiche et du feuilleton, et a fortiori évidemment de l'affiche de feuilleton. Il n'est donc pas surprenant de constater que dans notre corpus, qui se rapporte au roman suivant, je cite dans l'ordre chronologique des romans, pas dans celui des affiches, donc Thérèse Raquin, Nana, Au bonheur des dames, La joie de vivre, Germinal, La terre, Le rêve, La bête humaine, L'argent, La débâcle, Lourdes, Paris. Donc dans ce corpus, il y a pratiquement plus de deux tiers d'affiches de feuilleton, principalement pour le journal Gil Blas, et moins d'un tiers d'affiches d'édition illustrées. Comment sont-elles réparties par rapport à l'œuvre de Zola? On peut d'abord remarquer que ni les textes de critique d'art, ça va de soi, ni les essais et manifestes littéraires, ni les évangiles n'ont été lancés par voie d'affiche. Mais le procédé a été réservé aux romans et aux villes. Ces exclusions n'ont rien d'étonnant, elles correspondent tout à fait aux habitudes de l'affiche d'édition, qui est réservée aux romans, à l'histoire, au voyage ou aux livres du quotidien. Les villes offrent un cas particulier propre à l'œuvre de Zola, dont Stenlen offre à juste titre une interprétation tout à fait spécifique. Et alors là, je voudrais la première diapositive, s'il vous plaît. Peut-être qu'on a un peu trop de lumière. Est-ce que c'est... Voilà, merci. Et dans cette affiche pour Paris, donc, Zola inaugure une formule panoramique en largeur qu'il va réutiliser par la suite. Il est vrai que le thème de la ville est omniprésent dans les arts graphiques du dernier quart du siècle. Mais ici, sous l'inspiration possible de Gustave Doré, l'étendue du paysage urbain, urbain s'élève vers le Sacré-Cœur en se confondant avec la houle d'une foule en marche. On retrouve un petit peu le même procédé dans l'affiche pour Lourdes, qui n'est attestée que par une réduction donnée dans un catalogue d'exposition de Stenlen. Mais Stenlen reprendra ce même principe en illustrant, par exemple, le roi mystère de Gaston Leroux en 1909, où j'ai dû passer une de mes images, Le Petit Sou en 1900. En dehors des villes et de Thérèse Raquin, un roman sur deux des Roncomacart a été lancé par voie d'affiche. Et la répartition des affiches sur la chronologie de la série n'est pas dénuée d'intérêt. Malgré la continuité des procédures éditoriales, puisque Zola a toujours fait appel au feuilleton pré-original suivi d'une édition originale, la première affiche connue coïncide avec le roman L'Assommoir, 1877, qui, par son succès de scandale, a assuré, comme on sait, à Zola la gloire littéraire et les gros tirages. Jusque-là, le lancement des œuvres de Zola repose sur des modes d'expression textuels et sur de vastes campagnes de presse, bien familière à l'ancien chef de publicité de la maison Hachette, qui a lui-même orchestré le lancement des Contes à Ninon, sa première tentative littéraire. Il est vrai que ces contes ont paru en édition non illustrée et que la question se fût sans doute posée différemment si le projet d'édition illustrée par Manet, proposé par Zola à Lacroix en novembre, pour novembre 1867, avait abouti. On peut penser à l'affiche de Manet pour les chats de Champfleury, par exemple, et regretter qu'une autre affiche n'ait pas existé. En effet, l'image appelle l'image, et en dehors du cas du feuilleton, l'affiche de librairie est par définition réservée aux livres illustrés. C'est ainsi que l'édition originale des Rougon-Macquart, l'édition Lacroix-Charpentier en 20 volumes de 1871 à 1893, n'a pas été annoncée par voie d'affiche, c'est bien normal. Le tournant de l'Assommoir détermine un élargissement massif des publics, aussi bien lettrés que populaires, qui se marque simultanément par l'apparition de la raréfaction bibliophilique avec les premiers exemplaires sur grand papier tirés sur papier spéciaux de l'édition originale, papier de Hollande, puis de Chine ou de Japon, et à l'autre pôle, par l'amplification du rôle du feuilleton. Le roman bénéficie pour la première fois d'une publicité visuelle par l'affiche et aussi d'une édition pré-originale populaire sur deux colonnes au bureau de l'administration du journal Le Bien Public. Ces innovations vont toutes dans le même sens, celle de l'élargissement donc du public. La nouveauté du recours à l'affiche est marquée à plusieurs reprises par la mention qui en est faite dans le contrat et dans la correspondance. Rappelons que la publication de l'Assommoir a été répartie sur deux journaux, avec un début qui a paru dans Le Bien Public d'avril à juin 1976 et une suite dans La République des Lettres de juillet 1976 à janvier 1977. Or, Zola avait bien spécifié dans son contrat avec Le Bien Public, comme le rappelle Marie-Claire Thillon dans le précieux petit catalogue de Médon, Zola et l'affiche, « Il est entendu que vous donnerez au roman une large publicité par voie d'affiche. » Par la suite, le rédacteur en chef de La République des Lettres, Catulle Mendès, lui a promis une grande publicité, c'est-à-dire 8 à 10 000 affiches. Et cette idée réjouissait Zola, qui, dans une lettre à Alexis de juillet 1976, note « Ajoutez que Paris est plein d'affiches. Je suis très content. » Par la suite, Zola, comme ses éditeurs, vont s'habituer à recourir à l'affiche, qui ne sera plus citée dans les textes ni dans les contrats, sauf exception. C'est que l'affiche s'inscrit désormais, cela va de soi, dans le système du lancement publicitaire du feuilleton, à côté de l'annonce, des réclames de journaux, des premières livraisons illustrées distribuées gratis comme une accroche au lecteur. Comme par exemple celle de Stenlen pour Paris. Alors ça m'ennuie parce que j'ai dû la... Ouais, voilà, là, voilà. C'est un exemple de ça. L'importance de ce tournant me fait bien regretter de n'avoir pas pu mettre la main sur cette affiche, qui est peut-être familière d'ailleurs aux spécialistes de Zola, de l'assistance, j'en sais rien. Parce que moi, je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais pas à quoi elle ressemblait, pas même s'il y eut une ou deux affiches différentes. Il est possible qu'il y en ait eu une seule, à en juger par les usages en cours, qui consistait à réactualiser la même affiche par des campagnes successives. Ainsi, l'affiche de Germinal, qui est là, c'est l'autre affiche dont Zola a parlé, écrivant au directeur de Gil Blas, Auguste Dumont, en novembre 1964. « Je n'ai plus de nouvelles de l'affiche. Avez-vous accepté le croquis de M. Lévy que j'ai vu et trouvé très bien ?» Donc, cette lithographie d'Émile Lévy a été reprise avec une petite modification simplement dans la lettre de l'affiche pour substituer un nom de journal à un autre, par le cri du peuple, c'est l'exemple que vous avez ici, en juillet 1885. C'est la même affiche qui a servi à Gil Blas. Alors qu'à l'origine, donc, le croquis avait été commandé pour Gil Blas en novembre 1984. Si brèves qu'elles soient, toutes ces mentions textuelles qu'on ne retrouve plus par la suite sont précieuses. Elle prouve que, conformément à l'usage, l'initiative de la commande de l'affiche, de la campagne d'affichage, revient au directeur du journal ou à l'éditeur, qui en assume les frais, et donc choisit le dessinateur, l'imprimeur, ici Émile Lévy, détermine le tirage, donc 8 à 10 000 pour l'assommoir. Sans doute aussi le format qui est déterminant dans le prix de revient de l'affiche, à la fois par la quantité du papier, par le montant du droit de timbre d'affichage qui en dépendent. Ce n'est qu'incidemment que Zola a l'occasion de donner son avis sur le projet d'affiche soumis à l'éditeur quand il lui passe entre les mains. C'est le cas du croquis de Monsieur Lévy, donc le croquis pour cette affiche qu'il a trouvé très bon. Dans son contrat avec la société d'affichage, le commanditaire peut donner des précisions sur les modalités de l'affichage, par exemple à hauteur d'œil ou dans les quartiers populaires. Dans le cas de Zola, tout porte à croire qu'il y eut un affichage massif de cet art urbain, spécialement parisien, puisqu'il écrit que Paris est plein d'affiches. La durée de la campagne est brève, en général 1 à 2 semaines, c'est-à-dire le laps de temps qui sépare l'annonce réclame de l'apparition des premières livraisons dans le journal. Le tirage des affiches est mal connu et il existe peu de termes de comparaison. Cependant, dans les années 1880, l'enquête menée par Réjeanne Bargiel indique qu'un roman populaire est lancé par 300 à 600 affiches. Les chiffres sont sans doute supérieurs pour le roman feuilleton, dont l'affiche offre une publicité à double détente pour le journal et pour le roman. C'est comme s'il y avait 2 affiches en une, si vous voulez. Comme l'indique de manière très parlante la formule stéréotypée de la lettre des affiches, on a souvent « lire dans », puis le nom du journal, Gilles Blas, enfin ici « Le cri du peuple », puis le titre et le nom de l'auteur, Germinal par Émile Zola, et ensuite le prix de vente au numéro, 5 centimes le numéro. Le produit annoncé et mis en vente est bien le journal, qui mise sur la publicité du feuilleton inédit qu'il contient. Quelquefois on mentionne feuilleton inédit, roman inédit, grand roman inédit, et sur le retentissement du nom de son auteur. Alors évidemment le nom de Zola fait... Eh bien, dans un cas même, c'est celui de la revue illustrée, la structure même de l'affiche est déterminée par cette double nature. Il s'agit de l'agrandissement de la une de la revue, elle-même dédoublée en 2 éléments emboîtés. En équerre et dans la lettre, il y a l'évocation permanente du journal, de son équipe, de ses rubriques. Et dans le rectangle de l'image, l'amorce du feuilleton, le rêve, personnifié par le visage de l'héroïne, tel que l'a dessiné son illustrateur. La coexistence de 2 affiches en une pour le roman feuilleton de presse explique donc des tirages plus importants, qui changent même d'ordre de grandeur, puisqu'on passe de centaines à des milliers d'affiches. À la fin du siècle, les chiffres s'envolent, et en 1899, dans un numéro du Petit Français Illustré, on fait état d'1 200 000 affiches collé par un journal à 5 centimes pour lancer son nouveau feuilleton. Bien en deçà de ce chiffre, le nombre de 8 à 10 000 affiches données pour l'Assommoir dans la République des Lettres en 1876 semble déjà très important, et on peut supposer que par la suite, le nombre des affiches a augmenté aussi jusqu'à la fin du siècle. Après le coup d'envoi de l'Assommoir, viennent une série d'affiches retrouvées qui datent des années 1880 et qui se concentrent sur la seconde moitié du cycle des Rougon-Macquart. Sur les 10 derniers romans, il y a 8 feuilletons inédits qui ont été lancés par voie d'affiche, alors que sur les 10 premiers, de La fortune des Rougon en 1871 à Peaubouille en 1882, il n'y avait eu que l'affiche de l'Assommoir en 1876. Il s'agit donc d'Au bonheur... Au bonheur des dames, je donne la date du feuilleton qui date l'affiche, hein, fin 1882, La joie de vivre, fin 1883, Germinal, fin 1884, La terre, mai 1887, Le rêve, avril 1888, La bête humaine, novembre 89, L'argent, novembre 90, et La débâcle, qui a eu 3 affiches, en octobre 92, mais une seule affiche de feuilleton. Tous ces feuilletons sont inédits, sauf pour La débâcle, dont l'affiche a trait à la 2e publication en feuilleton, après une publication antérieure dans La vie populaire. Mais il peut arriver que l'affiche du feuilleton inédit soit reprise lors d'une nouvelle publication. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour L'Assommoir et pour Germinal. Ce caractère inédit est important. Il est souligné par la lettre de l'affiche et il retentit sur la conception et sur la réception de l'affiche. En effet, l'artiste ne dispose pas de la totalité du roman pour travailler, pour concevoir son image. Il doit s'inspirer soit des premières pages, c'est le cas pour La Terre, dans l'affiche du feuilleton. C'est l'évocation des semailles, tout à fait stéréotypée, mais qui se rapporte à la première page du roman, 1887, où il peut s'inspirer de la réclame, souvent dû d'ailleurs soit à l'éditeur, soit à Zola lui-même. Et c'est le cas pour l'affiche de Chéret pour l'argent en 1890. Chéret ne pouvait pas avoir lu la totalité du roman non plus et s'est inspiré ici de la réclame qui a été faite pour le roman. C'est là une grande différence avec l'affiche pour l'édition illustrée populaire vendue par livraison, pour laquelle l'affichiste peut disposer d'une lecture complète et d'une vue d'ensemble personnelle sur le roman. Tel est le cas pour l'autre affiche de Chéret pour La Terre, que j'analyserai en conclusion. Les affiches de feuilleton sont dans l'ensemble commandées par Gilles Blas, sauf Le Rêve pour la revue illustrée et La Bête humaine pour la vie populaire. Et ce journal s'adresse à de grands éditeurs dessinateurs d'affiches, d'abord Émile Lévy, puis Chéret, pour l'affiche de l'argent en 1891, cette affiche-ci, ou 90 plutôt. Changement sans doute dû à l'immense succès qu'a connu l'affiche de La Terre, donnée par Chéret en 89, pour l'édition illustrée Marpon et Flammarion. Mais toutes ces affiches de feuilleton forment un ensemble assez cohérent, elles sont lithographiées en couleur. Et simplement, la première s'en détache un petit peu. C'est l'affiche pour Au bonheur des dames, qui est un portrait à mi-corps de Denise, dans une composition assez proche du langage de l'enseigne. Et la dernière, pour l'argent, par son format en hauteur destiné aux colonnes Maurice et par son style Chéret. Dans l'intervalle, s'est affirmé le langage propre à l'affiche de feuilleton des années 80, qui est tout à fait comparable à celui de l'affiche en couleur pour les éditions populaires illustrées. Et ici, je vais vous montrer donc les trois affiches pour la débâcle, celle du radical pour le feuilleton, du radical en 1892, et en 93, ça n'avance plus. Ah voilà, ah non, c'est pas celle-là que j'aurais. Ouais, mais il me manque. J'ai mal classé mes affiches. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, ben si, elle passe quand même maintenant. Peu importe. Il y a eu trois affiches pour la débâcle, ce qui était un cas unique. Donc, une affiche pour le radical, pour le journal, et deux affiches pour l'édition Flammarion, illustrée par Paul de Semont, en 1893. Moins nombreuses que les affiches de feuilleton, puisqu'elles ne sont donc que cinq, les affiches des éditions populaires pour les éditions Flammarion ou Marpon et Flammarion forment un ensemble intéressant par la diversité, au contraire, alors que la cohésion caractérisait les affiches de feuilleton. Elles marquent bien l'évolution connue de l'affiche en noir, dans les deux premiers cas, vers l'affiche en couleur, dans les trois derniers. En 1882-83, les deux affiches en noir apparaissent vraiment comme des survivances. Alors, voilà. Il y a d'abord l'affiche à vignette pour Nana en 1882, le roman paru deux ans plus tôt, et l'affiche typographique à réserve pour Thérèse Raquin en 1883. La première formule est apparue sous la monarchie de Juillet. Elle permet l'économie du dessinateur spécialement attaché à l'industrie de l'affiche, puisqu'elle se contente d'intégrer à une composition typographique quelques échantillons de l'illustration gravée sur bois du livre. C'est à cette formule, d'ailleurs, qu'est apparentée la politique bien timide des affiches menées par la maison Hachette, pour laquelle avait travaillé Zola. Il s'agit plutôt d'affichettes d'intérieur, d'ailleurs, ou de grands prospectus qu'à proprement parler d'affiches, fondées sur l'image en grand. Pour Nana, les échantillons des vignettes présentent ce que le langage de l'illustration désigne comme des types, c'est-à-dire des personnages en pied dont l'appartenance sociale se reconnaît d'un seul coup d'œil. Et le nom de l'illustrateur, Bertal, dont la carrière fut lancée par son importante contribution à l'illustration des types de la comédie humaine dans l'édition Furne, permet de projeter sur le romancier naturaliste Zola ses origines réalistes à l'ombre de Balzac. Mais Bertal fut aussi sous le Second Empire l'un des illustrateurs qui ont travaillé comme Zola pour Hachette, et entre autres, il a illustré la comtesse de Ségur dans la Bibliothèque Rose. C'est aussi le cas de Castelli. On est peut-être surpris de ce rapprochement, mais enfin, il a illustré aussi Le Bon Petit Diable et Thérèse Raquin. Lui aussi travaillait donc chez Hachette. Et d'ailleurs, dans Le Bon Petit Diable, on trouve bien un même penchant pour le fantastique, mais teinté d'ironie et de caricature. Ici, au contraire, Castelli donne, dans ses splendides illustrations, laisse libre cours à son goût du surnaturel dans une illustration macabre digne d'un roman noir. Agrandi en lithographie à la plume par un ouvrier d'atelier et collé au centre d'une mince feuille en papier du papier à sucre, ce petit papier teinté de jaune, où s'inscrit la lettre de l'affiche. Cette présentation populaire est celle que l'on retrouve aussi bien pour le mari de Marguerite de Montépin que pour les chats de Champfleury par Manet. Et c'est une disposition qui appartient à l'affiche murale et non plus à l'affiche d'intérieur comme c'était le cas pour Nana. La conception fantastique, paroxystique de l'affiche correspond bien aux intentions exprimées par Zola sur son roman. Les trois affiches suivantes marquent le passage décisif à l'affiche en couleur, lithographiée en grand, qui présuppose, à la différence des précédentes, toujours liées aux illustrateurs, donc Castelli et Bertal, l'avènement d'un nouveau métier, celui du dessinateur d'affiches. Quelle que soit la nature du roman qu'elle annonce, littéraire ou populaire, l'affiche en couleur reste un langage populaire, conforme à l'usage de la vignette dans la Bibliothèque bleue, du canard, de l'enseigne ou de l'image populaire. Ces couleurs franches lui donnent un aspect bariolé auquel sont sensibles tous les contemporains, mais qui marque alors et qui caractérise, par exemple dans les écrits de Champfleury, l'imagerie dite d'Épinal. L'invention de l'image permet au spectateur de classer immédiatement le roman annoncé dans un registre donné. Roman sentimental, c'est cette fonction un peu générique qui est importante, le roman sentimental pour La Joie de vivre, le roman noir pour Thérèse Raquin, le roman patriotique ou le roman de bataille pour La Débâcle, le roman social de révolte pour Germinal. Cette fonction générique est conforme au système de la vignette dans la circulation populaire des livres de la Bibliothèque bleue. Si elle est statique, souvent centrée sur un personnage d'ailleurs, l'affiche s'apparente à l'enseigne, comme on l'a vu tout à l'heure pour Au bonheur des dames. Tandis que lorsqu'elle devient dynamique et violente, elle se rapproche du canard, dont relèvent aussi les faits divers à la une du supplément illustré du Petit Journal. C'est le cas de la bête humaine, mais qui n'a pas l'air de vouloir revenir. Je ne sais pas, il y a un problème avec le... Ah oui, ça doit être ça, oui. Ah oui, oui.
Voilà, mais c'est un problème de télécommande.
Bon. Problème de télécommande. En plus, c'est pas, vous n'avez pas vu... Bon, La Joie de vivre, c'est le roman sentimental, c'était celle que je voulais montrer avant, et La Bête humaine, voilà. L'affiche d'édition de la Troisième République adapte l'œuvre à une lecture populaire par le recours à ces codes anciens de la culture populaire, mais aussi par des procédures familières à la littérature populaire de la seconde moitié du siècle, comme l'importance du héros ou le recours aux stéréotypes. Le semeur de la première affiche de la Terre est l'un de ces stéréotypes, on l'a vu tout à l'heure, un stéréotype iconographique qu'on retrouve aussi bien chez Millet que chez Van Gogh, et en littérature, évidemment, qui passe de Sand à Hugo ou Zola. L'effet de code peut enfin se rattacher à un style d'affiche à travers l'œuvre de Chérin, qui, pour l'argent, a mis en scène une chérette. Bon, c'est pas ça. Mais vous l'avez vu tout à l'heure. Une de ces chérettes, ces petites figures de parisiennes qui apparaissent pratiquement dans toutes ces affiches. Et pourtant, l'affiche peut aussi induire une lecture attentive et forte de l'œuvre, comme le montre en dernier lieu l'analyse de la Terre de Chérin. Alors c'est cette affiche qui est vraiment très connue dans toute l'histoire de l'affiche, toujours reproduite. C'est la présentation monumentale, héroïque, d'un personnage anéanti par l'histoire, le père Fouan, que cette affiche pour la colonne Maurice représente. Et elle semble bien un fragment découpé dans l'extrémité droite d'une image populaire pour le degré des âges. Alors là, je m'excuse, j'ai oublié ma diapositive. Mais vous connaissez ces images populaires où on voit les âges de la vie s'échelonnant en arc de cercle. Évidemment, à droite, déclinant, il y a la vieillesse. La courbe déclinante des lettres y rappelle la dernière marche de l'escalier de la vie qui correspond à l'âge de vieillesse, personnifié par le père Fouan, dans une correspondance à la fois médiévale et zolienne entre les cycles naturels, les saisons et les âges de la vie. À l'arrière-plan, la charrue est l'emblème ou l'enseigne de la vie agricole déjà présente dans la danse des morts de Holbein ou dans les calendriers des bergers du Moyen-Âge et de la Renaissance. Simple et forte, cette affiche suppose une lecture du roman centrée sur la décadence des petites exploitations industrielles plutôt que sur l'avènement de la culture des petites exploitations rurales, pardon, plutôt que sur l'avènement de la culture industrielle qu'évoque aussi Zola. Donc, vous l'avez vu, l'affiche est peut-être quelquefois très réductrice et simplificatrice, mais elle peut aussi apporter dans certains cas de très riches aperçus sur l'œuvre de Zola, d'une façon tout à fait différente des illustrations du livre, et sans doute beaucoup plus décisive pour l'imaginaire collectif. Ces affiches ont vraiment servi à populariser l'œuvre du romancier naturaliste. Et pourtant, je voudrais encore dire que l'affiche de feuilleton a un statut bien particulier et assez paradoxal, puisqu'elle est une visualisation anticipée du roman, antérieure à l'édition originale, et qui, liée au lancement dans la presse d'un ouvrage encore en fabrique, en cours de fabrique, s'oppose fortement à la série d'images ponctuant un texte achevé que représentent les illustrations dans l'édition illustrée. Voilà.
Merci pour ce parcours illustré, enfin d'une des dimensions de l'image là, qu'on rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire cette dimension publique et puis cette interférence aussi sur laquelle nous reviendrons entre l'image proprement dite, l'édition illustrée et l'image publique. Enfin, oui. C'est ça qui est tout à fait intéressant à grouper. Bon, nous allons passer à l'image intégrée avec... ah oui, pardon, il faut rétablir la... avec, monsieur Jean-François, j'espère ne pas écorcher son prénom. Jean-François, c'est bien, pardon. Jean-François Thibault qui vient de l'université George Washington. Et qui parle de Renoir, illustrateur de l'Assommoir. Il y a été fait allusion ce matin. On avait vu quelques flashs d'images. Je pense que certaines seront reprises ou commentées aujourd'hui, cet après-midi.